Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le numéro 82 de votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons du pain sur la planche. D'abord, nous nous immergerons dans les eaux agitées du Pacifique avec O Lucy, un premier film de la réalisatrice japonaise Atsuko Hiranagi qui nous ballottera entre Japon et Californie. Puis Maë nous emmènera sur les eaux non moins houleuses de la Méditerranée entre Liban et Palestine pour nous parler de l'insulte de Ziad Doueri qu'elle est allée voir pour nous. Léa nous plongera ensuite dans l'histoire tumultueuse d'Anna, héroïne du film éponyme d'Andrea Palaoro. Enfin, nous traverserons la Manche pour retrouver Caroline qui nous parlera de ce qui se fait dans les salles obscures d'Albion dans un tout nouvel épisode de Toute Toile Dehors. Et bien sûr, nous nous retrouverons en toute fin d'émission pour faire un point sur les sorties et événements cinématographiques de la semaine. Mais sans plus tarder, commençons avec O Lucy, qui est un premier film, donc comme je l'ai dit, d'Atsuko Hiranagi. Alors, à Tokyo, Setsuko est blasée par sa vie solitaire et insipide entre son minuscule appartement et son open space de salary woman, considérée par ses collègues et par sa sœur comme une vieille fille. Rien ni personne ne semble s'intéresser à elle, ni l'intéresser, jusqu'à ce que Mika, sa nièce, parvienne à la convaincre de prendre des cours d'anglais avec un professeur tout à fait particulier, John. Celui-ci offre une nouvelle identité à Setsuko, Lucy, une femme avenante, coiffée d'une perruque aux allures Marilyn Monroe-esque, si bien que lorsque John et Mika fuient ensemble aux États-Unis, Setsuko décide de partir elle aussi en Californie avec sa sœur afin de retrouver l'homme pour lequel elle nourrit des sentiments ambigus. Alors, qu'avez-vous pensé de O Lucy ?
Avoir la tête de Thomas.
Ah si, moi j'ai bien aimé.
Ah d'accord.
Ah, si, si, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'était un film intéressant sur la question de s'échapper un peu de sa vie, enfin dans des termes très génériques, hein, mais dans une pour essayer de trouver quelque chose d'autre que ce qu'on est, et en fait essayer, mais qui s'affronte toujours à une incompréhension en fait, et qu'on n'arrive jamais à le faire. Du coup, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Voilà.
Oui, j'ai bien aimé le propos du film aussi sur cette tentative d'autre, un peu jetée comme ça et vaine dès le début. Après, j'ai trouvé assez mal réalisé. Mais ça, c'est des choses que je me suis dit après le film, il me semble, parce que quand tu regardes le film, même les choses qui ont tendance à être un peu kitsch ou trop, enfin, il y a des moments où il y a des musiques qui viennent se coller à des plans où la caméra se lève et t'as une voiture qui part au loin. Enfin, ça, j'ai trouvé ça pas très bien réalisé, mais c'est des choses que tu te dis après le film. Pendant le film, je l'ai bien aimé. Après, moins.
D'accord. Alors, moi, j'ai plutôt bien aimé ce film. J'ai trouvé, ouais, pareil, que le propos était très intéressant. Il m'a semblé que c'était un film qui était sur le langage, le mutisme et l'incapacité de dire et de se dire d'une certaine manière. On a l'impression que tout au long du film, que personne ne parle la même langue, qu'ils sont tout le temps sur des plans totalement différents, que même dans leur manière de jouer, les acteurs semblent ne pas réussir à communiquer, ne pas réussir à rentrer en résonance, on a l'impression. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, bah on s'en rend surtout compte au moment où ils sont dans ce cours d'anglais et où ils trouvent un langage commun mais qu'ils comprennent tout juste, puisqu'ils se disent juste « hi » et où ils se prennent dans les bras et là on se dit « ah ouais, quand même ouais. ».
Oui, et puis dans ces étreintes, il y a quelque chose d'extrêmement distant, hein, même s'ils sont physiquement très proches, j'ai l'impression. Et puis d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose autour de la bouche qui va pas, c'est-à-dire soit elle a quelque chose qui obstrue sa bouche, soit elle tousse, soit elle a cette espèce de balle de ping-pong dans
oui,
la bouche.
Vrai.
Elle a toujours l'air d'être au bord de l'étouffement, même dans son appartement microscopique qui est totalement saturé. Elle est tout le temps dans une toute petite portion de son appartement. On a l'impression que elle est sans cesse, il y a quelque chose qui l'obstrue, quoi, qui obstrue littéralement sa bouche. Enfin, bon, alors là, je vais peut-être spoiler, donc bouchez-vous les oreilles au cas où. Mais à la fin, lorsqu'elle tente de se suicider, elle le fait en avalant des comprimés. Et pour la sauver, Tom est obligé de la... Enfin, il lui met le pommeau de douche dans la bouche pour la forcer à vomir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, du nettoyage du corps par l'orifice buccal, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
J'avais pas pensé à ça, mais je trouve ça assez juste.
Sinon, à l'inverse, en fait, elle en dit trop. Au pot de départ de sa collègue, par exemple, où d'un coup, elle se met à déverser tout un tas d'insanités, ou alors, lorsqu'elle est au bord de la falaise et qu'elle parle avec sa nièce et que l'issue de cette conversation est un peu difficile, on a l'impression qu'en fait, elle a du mal à gérer ce qui sort ou ce qui doit pas sortir, justement.
Bah, elle n'arrive jamais à trouver sa juste place dans tout ça, et du coup, il y a un grand mal-être qui s'échappe d'elle. Enfin, oui, c'est au moment où elle dit à sa nièce... oui, bah tu sais quoi, moi aussi j'ai couché avec lui. En fait, elle le dit en rigolant, alors que c'est la chose la plus terrible du monde à lui dire. Enfin, elles se sont fait toutes les deux avoir, et puis elle lui avoue qu'elle aussi elle s'est fait avoir. Et ouais, même là, on dirait qu'elle est à côté. Puis même après, quand elle va dire à John qu'elle l'aime, enfin, on voit bien que c'est impossible. Enfin, il y a plein d'impossibilités. Elle se prend dans la tête plein d'impossibilités de faire quoi que ce soit. Et je trouve ça hyper touchant, en fait. Et d'impossibilité aussi, et du coup, d'impossibilité à s'exprimer elle aussi en tant qu'elle est. Et même le moment où justement elle va trouver. Parce que le début, enfin, les cours d'anglais au début, c'est vraiment une porte de sortie. Et tout ça, en fait, comment dire. Ces cours d'anglais qui sont une porte de sortie, après, bah, après le premier cours, ça va déjà être coupé par le fait que John s'en va. C'est-à-dire que même au moment où elle trouve un moyen pour. Devenir une autre personne, devenir Lucie, bah ce moyen-là lui a enlevé. Elle va essayer de le récupérer, mais sans jamais y arriver.
C'est vraiment un film qui est sur l'impuissance, finalement. Elle est sans cesse frustrée. Enfin, c'est un film qui est frustrant, et même pour nous, on a l'impression de jamais... J'ai l'impression de pouvoir prévoir ce qui va se passer. On a l'impression de sauter de surprise en surprise et d'être un peu... surchargé par tous les malheurs qui arrivent à cette pauvre.
Il y a plein de chocs. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de chocs dans le film. Et du coup, ça, je trouve que ça contrebalance ce que tu disais au début. C'est vrai qu'il y a des moments un peu lourds ou clichés au niveau du fait qu'on les a souvent vus. Mais je trouve qu'en fait, ils sont contrebalancés par des moments où on se prend le réel en pleine figure. Bon, je spoilerai rien, mais il y a des moments quand même qui sont très très forts au niveau de. Voilà, bon, je vais spoiler quand même pour dire ce que je pense. Mais,
coupez le son de votre ordinateur.
Juste le moment où elle où sa nièce fait une tentative de suicide, quoi. Enfin, moi je m'y attendais pas qu'elle saute la nièce,
mais moi,
et je trouvais ça assez dur d'un seul coup, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi j'ai l'impression que le film, il y a une espèce de rythme qui paraît assez calme, enfin assez voilà égal tout le film, mais c'est une façade, et de temps en temps cette espèce de surface et ouais, comme tu dis, percé par des moments, des points d'acmé comme ça. Enfin, il y a toujours un scandale qui semble arriver par le fond du cadre, c'est-à-dire le moment. Enfin, dès que quelqu'un tente de se suicider, ça se passe toujours par le fond du cadre. Il surgit de quelque part, on ne sait pas trop comment ça se fait. Quand d'un coup la porte s'ouvre sur la famille cachée de John, ça, d'un coup, alors qu'ils sont dans un petit pavillon de banlieue qui les masque totalement à la caméra. Ouais. Et, voilà, c'est un pavillon de banlieue américaine comme on a vu des millions. Et d'un coup, ça. Hop, ils arrivent dans le champ, ils font effraction totalement par le centre du cadre, et tout se passe comme ça. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce de calme de façade, et que c'est un peu le même calme qui masque un peu le vrai visage des personnages. On a toujours l'impression qu'ils portent des masques, et ces masques qui sont interchangeables quelque part, puisqu'il suffit que Setsuko utilise le shampoing de sa nièce pour prendre sa place, en quelque sorte, où tout le monde peut avoir le même tatouage, ou enfin, il y a des tas de figures comme ça qui redoublent cette impression. Et en fait, finalement, là où elle arrive le mieux à s'exprimer, ou le mieux à être à s'en sortir, tout ça, c'est le moment où totalement elle va friser le ridicule en prenant l'identité de cette Lucie, j'ai l'impression.
Oui, c'est un film qui s'affronte beaucoup au problème du suicide et au problème de comment faire lorsque on se rend compte que notre vie personnelle a été complètement débordée par notre vie professionnelle, ou une autre vie qui n'est pas la nôtre, en fait. Et on le voit à plusieurs moments, on le voit avec cette femme qui part à la retraite vers le début du film, et elle fond en larmes, et on sent bien, et même après quand elle l'insulte et qu'on la voit sur le bord de la rame de train de métro, on voit bien que sa vie après va être monstrueusement ennuyeuse, quoi, et qu'elle on sait pas ce qu'elle va faire après. Et voilà, enfin, après ça rejoint aussi le fait que le Japon aujourd'hui c'est une des sociétés qui a les plus forts taux de suicide du monde. Mais après ça rejoint aussi ça rejoint un peu les autres, enfin ça rejoint tout le monde, il me semble.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la réalisatrice parle de thèmes qui traversent la société japonaise, mais elle montre quand même que ces impératifs sociaux qui un peu sclérosent la société, on les retrouve de l'autre côté du Pacifique, en Californie, alors qu'on pourrait croire que c'est quelque chose d'assez, voilà, la Californie.
Elle les limite pas au Japon. Enfin...
Et elle montre que c'est quelque chose qui quand même, que les individus, ils sont toujours dans une espèce de performance, j'ai l'impression.
Oui, c'est vraiment, enfin, le suicide, le pendant de tous les moments du film, j'ai la sensation, enfin, c'est peut-être aussi parce que le film commence par un suicide, mais t'as l'impression que tous leurs gestes, c'est un peu des figures avant ça.
C'est vrai.
Que tout prépare à ça, ouais. Ou que c'est la seule réponse, quoi.
Donc du coup, est-ce que vous recommanderiez Au Lucie?
Oui, moi beaucoup. C'est un film vraiment très beau, je pense.
Oui, moi un peu.
Moi je pense, ouais, c'est un beau premier film et qui vaut le coup quand même.